Et cette fois-ci, c'est bien à vous, Antoine Maret, pour le journal. Bonsoir.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Les mauvais élèves de l'Union européenne en matière de pollution de l'air doivent revoir leur copie. 9 pays devant la Commission qui ont jusqu'à lundi pour présenter de nouvelles mesures et éviter d'être renvoyés devant la justice européenne. Les indépendantistes divisés en Catalogne, le président du Parlement catalan a ajourné la session d'investiture à la présidence de Carlos Puigdemont. Le gouvernement espagnol s'en félicite, mais le camp des indépendantistes critique cette décision. Confusion et discorde au menu de la conférence. Conférence de paix sur la Syrie organisée par la Russie. Certains délégués de l'opposition syrienne ont décidé de rentrer en Turquie. Plusieurs milliers de personnes rassemblées aujourd'hui dans plusieurs villes en France pour réclamer plus de moyens pour les maisons de retraite. À l'appel de plusieurs syndicats, des débrayages ont eu lieu dans plusieurs EHPAD. Bruxelles donne une dernière chance aux mauvais élèves européens en matière de qualité de l'air. 9 pays représentés cet après-midi à Bruxelles par leur ministre de l'Environnement qui se sont fait recadrer par la Commission européenne. Ils ont jusqu'à lundi pour présenter de nouvelles mesures et éviter ainsi d'être renvoyés devant la justice européenne. Ces mauvais élèves, ce sont les pays d'Europe centrale et orientale, à l'exception des pays baltes. Mais plus à l'ouest, la France est également sur la sellette aux côtés du Royaume-Uni, de l'Allemagne, de l'Espagne et de l'Italie. Tous ces pays avaient déjà reçu l'an dernier un avertissement présenté comme le dernier au sujet du dioxyde de carbone. Et ce mardi, la Commission européenne a décidé de les mettre au pied du mur. À Bruxelles, le reportage de Pierre Benazet.
Le commissaire européen à l'environnement, Carmenu Vella, a rappelé aux 9 ministres convoqués à ce mini-sommet que leur pays dépassait depuis beaucoup trop longtemps les normes européennes de pollution. Les 9 pays convoqués ont tenté de mettre en avant les nouvelles mesures décidées ou mises en place et la Commission européenne leur a donné jusqu'à lundi pour lui communiquer dans le détail leur plan de réduction d'émissions de particules fines et de dioxyde d'azote. Une mise en demeure accueillie favorablement par le ministre français de la Transition écologique, Nicolas Hulot.
Ils nous ont mis la pression, mais moi je m'en désole pas, parce que ça permet peut-être moi d'appuyer, d'étayer mes propres inquiétudes et velléités. Comme ça on comprendra que c'est pas simplement une inquiétude d'un ministre, mais que c'est une inquiétude qui est fondée. Mais on a compris qu'il fallait maintenant faire la démonstration qu'entre la volonté et l'efficacité, les choses se rejoignent.
La Commission européenne n'a pas précisé les suites qu'elle comptait donner aux communications attendues pour lundi, mais elle a décidé qu'elle ne pouvait plus se satisfaire de proposer son aide au pays, de leur donner des conseils ou de leur lancer des avertissements. On pourrait en théorie s'approcher du lancement d'une procédure en infraction devant la Cour européenne de justice, comme celle qui frappe déjà la Bulgarie et la Pologne.
L'Allemagne fait donc partie de ces mauvais élèves et hasard du calendrier, c'est cette semaine qu'un nouveau scandale touche le secteur automobile allemand. Des tests ont été effectués sur des personnes et des singes pour mesurer l'impact de l'exposition au gaz d'échappement. Bonsoir Cyril Sauvageau.
Bonsoir.
Vous êtes notre correspondant à Berlin. Sur place, l'émotion est grande après ces révélations, puisqu'un dirigeant de Volkswagen vient même d'être suspendu.
La sanction est tombée comme un couperet. Le lobbyiste en chef de Volkswagen, Thomas Steg, est donc la première victime collatérale de ce scandale. Ce matin, il reconnaissait dans le quotidien Bild avoir autorisé les tests sur des singes aux États-Unis. Impossible dès lors de laisser en poste ce dirigeant, ancien porte-parole du chancelier Gerhard Schröder, qui est donc suspendu le temps de faire toute la lumière sur cette affaire. Pour Volkswagen et pour son patron Matthias Müller, ce nouveau scandale est un coup dur supplémentaire 2 ans après le Dieselgate. Et alors que l'entreprise s'efforce depuis de regagner en crédibilité. Volkswagen a beau garantir qu'il n'y aura plus de tests de pollution menés sur des animaux. Il a beau promettre de s'assurer de la bonne santé des singes qui ont subi les tests en 2014. Pas sûr que cela suffise à éteindre l'incendie. À Berlin, les politiques se saisissent du dossier. Pour le ministre des Transports, Christian Schmidt, la confiance en l'industrie automobile est à nouveau entamée. D'autant que Volkswagen n'est pas seul en cause. Les autres géants du secteur, BMW, Daimler et Bosch, cofinançaient l'institut de recherche qui a mené ces tests sur les animaux et sur des humains. Les députés du Bundestag devraient se pencher sur le sujet dans les prochains jours à la demande du groupe écologiste. Il s'agit notamment de déterminer si le gouvernement fédéral était au courant ou non de ces expériences.
Merci à vous, Cyril Sauvageon, direct de Berlin. Et l'une des conséquences de la pollution de l'air, c'est l'asthme. Il touche en particulier les enfants et les jeunes adultes. La France n'est pas épargnée. 15 000 personnes sont hospitalisées chaque année dans l'Hexagone pour une crise d'asthme. 10% de la population infantile est asthmatique et ce chiffre pourrait s'élever à 50% en 2050. à cause de la dégradation de notre environnement. Pour éviter de développer des formes d'asthme sévère, il existe un traitement, la désensibilisation. Or, le Collège de la Haute Autorité de Santé menace de cesser tout remboursement de ce traitement, ce qui provoque le courroux de Jocelyne Just. Elle est présidente de la Société française d'allergologie. Elle est interrogée par Véronique Rebérotte.
La marche allergique, c'est le passage au cours de l'enfance de la rhinite à l'asthme et quelquefois après l'allergie alimentaire, donc avec des formes de plus en plus multiples et sévères. Seule la désensibilisation allergénique permet d'enrayer cette marche allergique. C'est le seul traitement curatif. C'est un immunomodulateur. Et donc, les études montrent qu'elle évite le passage de la rhinite à l'asthme ou d'une allergie à plusieurs allergies. Alors, il y a plusieurs formes pour désensibiliser. La plus ancienne, c'est la forme injectable, en piqûre. Et puis, les formes les plus nouvelles sont les formes sublinguales, soit en liquide, soit en comprimé. Et il faut au minimum 3 ans pour avoir l'effet maximal, mais surtout pour avoir ce qu'on appelle l'effet rémanent. Les études montrent que 2 ans, 5 ans, voire 10 ans après la désensibilisation, vous pouvez avoir une immunité qui est meilleure. Moi, je dis que ces économies sont mal placées parce que vous allez effectivement moins prescrire, hein, puisque les gens ne pourront pas se payer. Mais on sait très bien que ce traitement préventif, au contraire, rapporte de l'argent, entre guillemets. Outre qu'il va améliorer le malade et sa qualité de vie, il va éviter les exacerbations, les venues aux urgences, les hospitalisations, les médicaments au long cours, la prise de traitements symptomatiques et de corticoïdes. Donc, on est in fine, on est gagnant-gagnant par la désensibilisation parce que on va coûter moins. Donc, c'est pas un bon raisonnement.
Du coup, en tant que pédiatre, vous dites les enfants, finalement, ça pour eux, ça va être la double peine.
Oui, pour les enfants, c'est la double peine parce que, si vous voulez, les modifications de notre environnement, ce sont surtout les enfants qui sont les premières victimes parce qu'ils ont un appareil respiratoire immature, parce qu'ils ont une immunité immature, parce qu'ils ont un organisme en croissance. Donc, c'est eux qui sont le plus touchés par le changement de l'environnement, à court et à moyen et long terme. Donc, si on leur donne un environnement qui n'est pas sain, on favorise les maladies allergiques et asthmatiques, et en plus, on ne donne pas les moyens du traitement. Mais c'est une double peine. C'est-à-dire à la fois, ils sont plus exposés, à la fois, on ne les traite pas. Ou on les traite de façon symptomatique, ce qui n'est pas suffisant.
Et le coût de ce traitement s'élève au maximum à 1 000 euros par mois. Un déremboursement empêcherait à la moitié des malades d'y avoir accès. 18h07 sur France Culture, les indépendantistes divisés en Catalogne après la décision du président du Parlement catalan d'ajourner la session d'investiture à la présidence de Carlos Puigdemont. Cela fait suite à l'interdiction de la Cour constitutionnelle. Le gouvernement espagnol se félicite de ce report, mais le camp des indépendantistes critique cette décision. Marie-Hélène Ballestero à Madrid.
Oui, et les réactions ont été multiples après cette décision. Tout d'abord, en Catalogne, les partis dits constitutionnalistes ont salué la décision sensée, disent-ils, du président du Parlement catalan, Roger Torrent. Au contraire, les formations indépendantistes de Junts per Catalunya, dont le chef de file est Puigdemont et la CUP, ont critiqué la démarche de Roger Torrent, qui, rappelons-le, est issu du parti indépendantiste ERC, la gauche républicaine catalane, dont le leader, Oriol Junqueras, est en détention provisoire depuis le 2 novembre. En repoussant cette session d'investiture, eh bien le président du Parlement catalan aurait provoqué la fracture de l'unité des indépendantistes catalans. C'est en tout cas ce qu'affirme aujourd'hui le quotidien La Vanguardia. Symbole de cette fracture, les députés de la CUP ont manifesté en début d'après-midi leur mécontentement en occupant l'hémicycle du Parlement catalan, tandis qu'à l'extérieur, des centaines de manifestants indépendantistes sont venus crier leur colère, car ils espéraient bien que la session d'investiture de Puigdemont aurait lieu aujourd'hui. Du côté du gouvernement espagnol, eh bien, il a salué la décision, comme vous le disiez, du président du Parlement catalan. Ce matin, avant de connaître la nouvelle, le chef de l'exécutif, Mariano Rajoy, avait mis en garde Roger Torrent en lui rappelant que s'il ne respectait pas la décision du tribunal constitutionnel, il devrait assumer les conséquences. Quelques minutes plus tard, on apprenait que la session d'investiture était ajournée. C'est une demi-victoire pour le gouvernement espagnol qui salue le respect de la loi et qui a évité, en tout cas aujourd'hui, que Carles Puigdemont ne soit investi.
Merci à vous, Marie-Hélène Ballestero, en direct de Madrid. C'était censé être une conférence de paix sur la Syrie organisée par la Russie, mais cette conférence de Sotchi a surtout été marquée par la discorde et la confusion. Certains délégués de l'opposition syrienne ont décidé de rentrer en Turquie et le chef de la diplomatie russe s'est fait bruyamment chahuter. À Sotchi, les précisions de Claude Brouillot.
Absence d'une grande partie de l'opposition syrienne, absence de représentants kurdes, offensive turque au nord-ouest de la Syrie, toutes les conditions ont été réunies pour conduire cette conférence de Sotchi à l'échec. Les débats ont d'ailleurs démarré avec une heure de retard, puis la retransmission, censée donner un ton positif au rendez-vous, a tourné court, interrompue au bout de 15 minutes, avec l'intervention d'un opposant syrien en plein discours de Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, pour dénoncer les bombardements de la Russie. Pourtant, Randa Kassis, présidente de la plateforme de l'opposition, l'opposition syrienne modérée veut croire à des avancées à partir de Sotchi, qui, dit-elle, ne sera pas un échec.
Sotchi n'est pas un échec. Rappelez-vous de l'Astana, de procès, le processus d'Astana. Le processus d'Astana, la première fois Astana militaire, était aussi un échec. Alors c'est un début de commencement. Il faut commencer par quelque chose. Au contraire, Genève est un échec. Jusqu'aujourd'hui, Genève est un échec. En fait, nous sommes entre l'opposition radicale et un régime aussi radical. Malheureusement, nous sommes au milieu, mais nous essayons de tout faire pour trouver cette solution. Et c'est pour cette raison, il faut aujourd'hui, avant de terminer, former une commission de constitution pour commencer à écrire une nouvelle constitution et pas réformée.
Malgré les nombreux obstacles diplomatiques et militaires actuels, la conférence de Sotchi a des vertus internes pour Vladimir Poutine. En pleine campagne électorale, le président russe fait en sorte de montrer aux siens que la Russie, après avoir vaincu l'État islamique en Syrie, fait tout pour que ce pays retrouve le chemin de la paix.
Au Yémen, la guerre qui oppose la milice des Houthis soutenue par l'Iran aux forces loyales au président Abed Rabo Mansour Hadi, soutenu lui par l'Arabie Saoudite et les pays du Golfe depuis près de 3 ans. Cette guerre s'est encore complexifiée avec l'entrée en lice d'un troisième acteur, les forces yéménites du Sud, qui jusqu'à ce week-end se battaient aux côtés du gouvernement, mais qui viennent de se retourner contre lui. Après 2 jours de combats acharnés, ces forces du Sud contrôlent depuis ce matin la quasi-totalité d'Aden, la seconde ville du pays. Sur place, les précisions d'Omar Waman.
Aden a retrouvé le calme pour la première fois depuis dimanche matin. Durant près de 48 heures, les habitants sont restés terrés chez eux en raison de la violence des combats, souvent à l'arme lourde. Les séparatistes, qui ont acheminé des renforts de plusieurs régions, ont pris la ville en étau avant d'avancer sous le feu des forces loyales au président Abed Rabo Mansour Hadi et de prendre le contrôle de la quasi-totalité de la ville. Les soldats de l'armée régulière n'ont pas eu d'autre choix que de se replier dans l'enclave de Maachik, près du port où se trouve le palais présidentiel et où sont stationnées les forces de la coalition arabe menée par l'Arabie Saoudite. Les séparatistes se sont arrêtés à moins de 500 mètres devant ce petit réduit qui est désormais le dernier secteur encore sous le contrôle des forces gouvernementales. Le président Hadi a suivi la situation depuis Riyad où il s'est exilé et d'où il a appelé à une médiation. Celle-ci a débuté sous l'égide de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis, parrain des deux camps et allié au sein de la coalition contre les rebelles houthis soutenus par l'Iran et qui contrôlent le nord du pays. Ils n'ont pas intérêt à voir Aden plongé dans le chaos, d'abord parce que cela affecterait la lutte contre leur ennemi iranien dont ils essayent d'endiguer l'influence, et surtout il en va de la stabilité du sud du Yémen où se trouve le détroit de Bab el-Mandeb, par où transite une grande partie du trafic maritime mondial.
En Cisjordanie, un adolescent palestinien âgé de 16 ans a été tué aujourd'hui par des tirs de soldats israéliens au nord de Ramallah. C'est ce qu'a annoncé le ministère palestinien de la Santé. Le garçon a été atteint au visage lors d'affrontements avec les soldats, mais le porte-parole militaire n'a pas été en mesure de confirmer dans l'immédiat ces informations. Retour à l'actualité française avec plusieurs milliers de personnes qui se sont rassemblées aujourd'hui dans plusieurs villes en France pour réclamer plus de moyens pour les maisons de retraite. Des personnels d'EHPAD essentiellement qui veulent pouvoir s'occuper dignement des personnes âgées dépendantes. À l'appel de plusieurs syndicats, des débrayages ont eu lieu dans des établissements de ce type, Annabelle Grelier.
Oui, le mouvement a été largement suivi. Il faut dire que tous les syndicats, sans exception, l'ont soutenu. Ce n'est pas si courant. C'est un mouvement qui a été préparé de longue date sur un mécontentement déjà ancien, sur un sujet, le vieillissement, qui concerne tout le monde. Bref, les personnels des EHPAD d'ordinaire oubliés ont déjà réussi à mobiliser l'opinion publique et les élus. Réussiront-ils à lancer une véritable réforme que tous les gouvernements ont jusque-là repoussée? Le contexte, en tout cas, est favorable. Emmanuel Macron, dont on attend un signe ligne sur les revendications sociales de ce pays aura bien du mal en tout cas à échapper au problème. Car problème il y a, et c'est incontestable, tous les rapports et toutes les études mettent en évidence le manque de moyens, autant financiers que d'effectifs, pour faire face au vieillissement de la population et la perte d'autonomie des plus âgés. Pour autant, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, résiste. Elle dénonçait ce matin l'EHPAD bashing en rappelant la dépense publique pour la perte d'autonomie, 21 milliards d'euros par an, les 110 millions d'euros supplémentaires inscrits au budget 2018 de la Sécurité sociale pour les EHPAD. Donc la ministre de la Santé ne semble pourtant pas prête à céder aux revendications des syndicats qui demandent des embauches, une revalorisation de leur salaire et un moratoire de la réforme de la tarification en cours. Cet après-midi, une délégation a été reçue par le cabinet de la ministre sans obtenir évidemment satisfaction. La réforme de la tarification initiée en 2017 sera maintenue, a redit la ministre interrogée à plusieurs reprises lors des questions au gouvernement. Cette réforme qui vise à faire converger progressivement de 2017 à 2023 les budgets des EHPAD publics et privés sur les enveloppes soins et dépendance sera accompagnée d'une augmentation de crédits alloués aux soins de 400 millions d'euros, a-t-elle rappelé. Agnès Buzyn donc va nommer très prochainement, pour tenter de calmer la colère, l'inspecteur général des affaires sociales, Pierre Ricordeau, comme médiateur pour expertiser les effets de la réforme controversée du financement des maisons de retraite.
Merci à vous Annabelle Grelier. Ces tensions au sein des EHPAD posent la question du modèle de financement de ces établissements. L'assurance maladie, les départements et les résidents sont mis à contribution, mais avec l'augmentation du nombre de personnes âgées dépendantes, le système de financement devrait être corrigé. Pour Antoine Bozzio, qui est directeur de l'Institut des politiques publiques, la situation actuelle s'explique par l'insuffisance des budgets pour financer la dépendance et il faudra engager des réformes.
Je crois que c'est le signe plutôt du fait qu'on a des budgets limités sur la question du risque dépendance, du fait qu'on a fait un choix ni d'assurance privée obligatoire, ni d'assurance de la sécurité sociale complet. On a un financement public, mais qui reste insuffisant par rapport aux besoins qui sont exprimés par cette population en nombre croissant de populations dépendantes. Donc je pense que pour augmenter la qualité au sein des EHPAD, augmenter la possibilité de mieux recruter, de mieux rémunérer les personnes et personnels qui travaillent dans les EHPAD, il faut des budgets collectif de la collectivité plus important. Et pour ça, il faut arriver à faire en sorte que le risque dépendance soit mieux couvert, soit par une assurance privée obligatoire, soit par une assurance publique obligatoire complète, qui soit un nouveau risque, un nouveau pilier de la sécurité sociale. Ce genre de réforme, ça fait plusieurs années qu'il y a eu des discussions depuis 2011 avec le débat national. On n'est pas arrivé aujourd'hui à un choix consensuel tranché sur cette question-là. Mais plus on repousse cette question, plus on va se retrouver avec des difficultés importantes qui vont être répétées sur la situation de financement de la prise en charge d'une personne âgée dépendante.
Antoine Bozzio qui était interrogé par Jean-Marc Chardon, qui a reçu, Antoine Bozzio, le prix du meilleur jeune économiste par le Cercle des économistes. Premier jour d'audition des parties civiles aujourd'hui au procès de Jawad Ben Daoud. L'homme est jugé pour avoir logé à Saint-Denis des djihadistes impliqués dans les attaques du 13 novembre 2015. Bonsoir Florence Turm.
Bonsoir.
Vous êtes sur place, des proches de victimes des attentats venus témoigner ont demandé à Jawad Ben Daoud, je cite, d'arrêter son spectacle.
Père, mère, frère, sœur, ils s'avancent tour à tour à la barre, la voix étranglée par l'émotion. Certains tiennent à la main le texte qu'ils ont écrit. Je suis veuve, j'ai perdu mon fils unique, c'est pas eux qui l'ont tué, mais ils ont aidé les terroristes. Ben Daoud enchaîne ce père de famille, il a réussi à transformer le tribunal en comédie de boulevard. Depuis la mort de ma fille, ajoute-t-il, je suis en prison et j'espère que lui y restera jusqu'à la fin de ses jours. Sophie, la quarantaine, évoque, elle, la mémoire de son époux. À l'hôpital Bichat, mon mari agonise pendant que l'on cache des faiseurs de mort. Sans regarder les prévenus, elle poursuit « Sur vous, je ne coagulerai pas ma peine. Je vous invite seulement à ressentir les amputations, le sang répandu. » Puis vient le tour d'Abdallah, grand jeune homme brun aux cheveux frisés. Il a perdu ses deux sœurs aux terrasses. Il le dit avec beaucoup de calme « C'est pas un show, pas un défilé de mode ici. » Mais finalement, ajoute-t-il, « Ce qui me dérange par-dessus tout, c'est que je pense qu'il n'était pas au courant. » Instant de silence et conviction partagée par Bilal, un colosse de 1m95, ancien boxeur, aujourd'hui en fauteuil roulant. J'ai besoin de les regarder dans les yeux. Ils sanglotent presque, Jawad Bendaoud et Mohamed Souma se lèvent. J'avais besoin de savoir si c'était des terroristes ou des imbéciles. Et Jawad, oui, c'est un imbécile. Le prévenu prend la parole, les larmes aux yeux. Je te remercie, Bilal. Tout ce que je dis depuis le début, c'est la stricte vérité. Puis Mohamed Souma, à son tour, franchement, là, tu m'as touché. Mon père m'a éduqué comme toi, mais j'ai pas vu le mal venir, Bilal. C'est allé trop vite, mais je ne suis pas un assassin. Improbable dialogue où une partie civile se range dans le camp de la défense et le témoin conclut en se tournant vers le tribunal. J'ai confiance en vous.
Merci à vous, Florence Turme. Demain, ciel pluvieux sur l'est, le nord et l'ouest. Ailleurs du soleil, température douce pour la saison. 16 degrés à Reims, 10 à Paris, 13 à Marseille. C'est la fin de cette édition préparée avec Jean-François Braun. Prochain journal à 22h, il vous sera présenté par Stanislas Vazak.